Bonjour, bonjour à tous. Mardi 5 juin 2018, bienvenue dans les voies de service. Aujourd'hui, je suis seul à bord, pas tout à fait seul, de l'autre côté de la vitre avec moi, Jean-Sébastien Laliberté, pour animer cette heure avec moi, avec des choix musicaux, des thèmes musicaux. En lien peut-être, me surprendra-t-il encore et toujours avec mes articles, les articles que je suis allé chercher pour vous dans la presse, dans Le Soleil, dans Le Monde, voilà mes sources habituelles. Et comme d'habitude, je me suis arrêté et vous propose tout ce qui m'a étonné, tout ce qui m'a intrigué, intéressé également. Il y a quelques sujets un peu plus sérieux, ça peut m'arriver d'être sérieux. Ce matin, je vous proposerai notamment de partir avec moi à la rencontre du barbier ambulant de Beyrouth. Et oui, on pourrait croire que c'est un métier venu d'un autre temps. Eh bien, il y en a encore dans certaines régions du monde. Également, pourquoi pas, en Thaïlande, où nous parlerons du problème du plastique et des océans qui n'en finit pas d'animer l'actualité, malheureusement. Alors, c'est toujours une bonne chose d'en parler, je pense. Également des plus grands hommes du monde, et quand ils sont réunis tous au même endroit, au même moment, c'est impressionnant, c'est à Paris que ça se passe. Également un sujet d'actualité qui anime l'actualité française en ce moment, avec un sans-papier qui a été régularisé pour un acte héroïque. Voilà, tout ça et quelques autres sujets un peu plus courts, mais tout aussi intéressants, je l'espère. C'est dans quelques instants, dans les voies de service. Et dirigeons-nous pour commencer cette matinée vers Beyrouth, donc au Liban. Le barbier ambulant de Beyrouth. Vêtu d'un vieux chapeau de paille et de bretelles bleu marine, Abo Tawila pédale à tout va dans un quartier du sud de Beyrouth. Un spectacle rare au Liban, le jeune barbier est à la recherche de son prochain client. Pour mener sa mission quotidienne à bien, ce jeune homme, il a tout juste 18 ans, a tout prévu, à minima. Un coffre fait à la main, attaché à l'arrière de son vélo, contient ciseaux, peignes, rasoirs électriques, brosses, etc. C'est beau, ça se passait comme ça au bon vieux temps, dit-il, en parcourant le quartier animé de Burj Al Barajneh. Son vrai nom est Mohamed Khaled Jaja, mais il préfère celui d'Abo Tawila, ce qui veut dire le grand, ce qui est devenu un surnom réputé. Ces barbiers mobiles étaient autrefois omniprésents à Beyrouth, mais au fil du temps, ils ont quasiment disparu au profit des salons réguliers. Les gens aiment ça, et j'aime tout ce qui est ancien. Si jamais j'ai la chance d'ouvrir un salon de coiffure, ce sera un millésime, dit Abo Tawila à l'AFP. Pragmatisme oblige, il jongle entre le moderne et l'antique. Il passe l'essentiel de sa journée dans un salon de coiffure conventionnel avant d'arpenter à vélo les ruelles de la ville. Certains l'arrêtent pour une coupe de cheveux, tandis que des amis et des curieux l'interpellent pour discuter. Quand j'étais petit, j'aimais observer le coiffeur près de la maison parentale. Je revenais de l'école, je posais mon sac à dos et j'allais tout de suite dans son salon, raconte-t-il. Un jour, il m'a proposé de travailler à mi-temps après l'école, mais j'ai décidé de quitter les études pour m'investir pleinement. C'est lui qui m'a appris le métier. Ce coiffeur est devenu une célébrité dans le sud de Beyrouth. Mince, grand, élégamment vêtu, il a l'esprit vif. « Je suis tellement heureux qu'il soit là », lance Abou Saïd, l'un de ses clients préférés. « Il a du talent et il est toujours disponible. Quand j'ai un peu de temps, je l'appelle et il vient immédiatement », explique-t-il. En plus de tout cela, il nous rappelle les barbiers de la belle époque. Tous les matins, Abo Tawila enfile sa tenue de travail et s'installe dans un café avant de démarrer sa journée. À ses quarts d'heure libres ou lorsque le salon est vide, il enfourche son vélo pour trouver des clients. Leur nombre varie de 5 à 30 chaque jour. L'activité est moins intense, par exemple, durant le ramadan, note-t-il, en allusion au mois sacré du jeûne musulman. À la veille de l'Aïd, je ne dors presque pas, tant les clients sont nombreux. Bien qu'il rêve d'ouvrir sa propre boutique, Abo Tawila insiste vouloir rester fidèle à son vélo. Si un jour j'ouvre mon propre salon, je garderai toujours cette bicyclette. C'est elle qui m'a propulsé. Partons à présent en Thaïlande pour avec ces deux petits articles qui parlent de deux animaux. L'un est réel, l'autre est factice et ça se passe dans ce pays d'Asie. Le premier article, Thaïlande, une baleine meurt après avoir avalé 80 sacs de plastique. Une baleine est morte après avoir ingurgité plus de 80 sacs en plastique dans le sud de la Thaïlande, ont annoncé des responsables après une vaine tentative de sauvetage du mammifère. La Thaïlande est l'un des pays qui consomme le plus de sacs en plastique au monde, causant chaque année la mort de centaines de créatures marines qui vivent près des plages fréquentées du pays. Cette baleine, un jeune mâle, est la dernière victime à avoir été retrouvée à peine vivante à proximité de la frontière avec la Malaisie, a précisé le ministère de la Marine et des Ressources Côtières sur sa page Facebook samedi. Une équipe de vétérinaires a essayé de le sauver, mais finalement, la baleine est morte vendredi après-midi, poursuit le message. Selon l'autopsie, l'animal avait dans l'estomac 80 sacs en plastique qui pesaient environ 8 kilos, a souligné le ministère. La baleine avait vomi 5 sacs en plastique durant l'opération de secours. Ces sacs ont empêché le mammifère de se nourrir de tout autre aliment nutritif, selon Ton Tamrogansawat, biologiste et conférencier à l'université de Khat Serthat à Bangkok. Au moins 300 animaux marins, dont des baleines, des tortues de mer et des dauphins, meurent chaque année dans les eaux thaïlandaises après avoir ingurgité du plastique, a détaillé à l'AFP ce même scientifique. Et partons à présent, si je retrouve mon petit article, le voici. Restons dans le même pays, en fait, en Thaïlande toujours, et sur la terre ferme cette fois-ci, une nouvelle un peu plus amusante, un peu plus réjouissante. Un dinosaure fait la circulation. Un agent de la circulation de Thaïlande a eu la drôle d'idée de se déguiser en dinosaure, persuadé que les usagers seront plus respectueux du code de la route grâce à cela. « Je suis souvent posté en face d'un jardin d'enfants et il y a deux écoles primaires à proximité. Le matin, il y a beaucoup de trafic et les parents ne respectent pas trop le code de la route. » « Je me suis dit comment y remédier », a expliqué le sergent Tanit Busabong. Avec l'autorisation de sa hiérarchie, tout de même, il a eu l'idée il y a un an de se munir de mains géantes pour attirer l'attention des conducteurs, explique ce policier de Nakhon Nayok, c'est une ville située à 2 heures de Bangkok. Au fil du temps, sa panoplie s'est enrichie et il compte aujourd'hui une vingtaine de costumes, tenez-vous bien, allant de l'ours au dinosaure. Cela a un impact positif sur la circulation et cela motive les enfants pour venir à l'école, assure-t-il, déguisé lundi en dinosaure, son costume le plus populaire. Entre deux mobylettes à 4 passagers sans casque, il tape dans la main des enfants par les fenêtres des voitures. La Thaïlande a un des pires taux de mortalité routière au monde en raison notamment du faible port du casque à moto, un moyen de transport très populaire qui véhicule des familles entières, parents et enfants. La police thaïlandaise, forte de 200 000 hommes, a mauvaise réputation. Les amendes se payent souvent en billets, sans reçu, et elle est accusée de monnayer sa protection des bars de nuit aux marchands ambulants. Heureusement qu'il y a donc des agents de police comme celui-là pour dérider un peu les enfants, les inciter à aller à l'école et veiller sur eux quand même.
Dis-moi pourquoi les animaux, dis-moi comment les hologrammes, y a-t-il un trou dans le pôle Nord, où sont allés les dinosaures, où sont allés les dinosaures? Dis-moi par où les éléphants, dis-moi combien de papillons, pourquoi toujours peur de la mort? Où sont allés les dinosaures? Où sont allés les dinosaures? Amour, amour, où est la clé? Pourquoi toujours les yeux mouillés? Combien de rêves avant l'aurore? Où sont allés les dinosaures? Qui ces phrases apprises par cœur? Pourquoi les cœurs épris d'eux-mêmes? Pourquoi les absents toujours en tort? Où sont allés les dinosaures? Où sont allés les dinosaures? Dis-moi pourquoi les pneus qui brûlent? Dis-moi combien de soldats fous? Y a-t-il une trêve avant la mort? Amour, amour, où est la clé? Pourquoi toujours les yeux mouillés? Combien de rêves avant l'aurore?
Où sont allés les dinosaures?
Donne-moi le nom d'un homme heureux. Quelle est la vraie couleur de l'or? Où sont allés les dinosaures? Où sont allés les dinosaures? Qui a caché les dinosaures? Qui a caché les dinosaures? Amour, amour, où est la clé? Pourquoi toujours les yeux mouillés? Combien de rêves avant l'aurore? Amour, amour, où est la clé? Pourquoi toujours les yeux mouillés? Combien de rêves avant l'aurore? Où sont allés les dinosaures?
Retour en 1992 avec son album Le goût de l'eau, c'était Michel Rivard, Les dinosaures.
Les dinosaures, et restons à cette belle époque des dinosaures. Enfin, c'est à la fois un petit peu aujourd'hui et à la fois un peu dans l'ancien temps. Je vous parle du paléolithique, mais bon, l'histoire que je vous raconte se passe bien aujourd'hui. Je vous explique, assez de mystère. Un artiste français s'enferme dans une statue pour une semaine. Ben pourquoi pas, parfois on est un peu déprimé de l'actualité, je ne sais pas, le ciel est trop gris, choses comme ça. On veut s'isoler, et bien pourquoi ne pas s'enfermer dans une statue? L'artiste performeur français Abraham Poincheval, un an après s'être cloîtré dans un rocher au Palais de Tokyo à Paris, s'est enfermé samedi, c'était donc la semaine passée, s'est enfermé samedi pour vivre une semaine dans l'espace exigu d'une statue d'homme-lion, une reproduction d'une fameuse statuette du Paléolithique. Le voilà, le lien entre mes deux articles. « Ça y est, je suis parti », murmure l'elfe blond de 45 ans, vêtu d'une combinaison polaire bleue. À quelques minutes de son nouveau voyage immobile, comme il les appelle, le performeur, très concentré et entouré de ses deux enfants, se dirige lentement vers la statue de 3,20 m de haut, installé dans le parc du musée d'Aurignac, dans le sud-ouest de la France. Au milieu des applaudissements d'une centaine de personnes, habitants des alentours et officiels, il se contorsionne pour s'insérer dans l'étroit sarcophage sculpté avec dans du mélèze. Il agite une dernière fois la main et referme sur lui le ventre de la créature. Abraham Poincheval a reproduit en grand une statuette du Paléolithique. C'est la plus ancienne statue anthropomorphe connue, explique Joëlle Arche, la directrice du musée de l'Aurignacien, spécialisé dans la préhistoire et qui a passé commande à l'artiste marseillais. L'œuvre originelle, haute de 32 cm seulement, a été taillée dans une défense de mammouth par les premiers Homo sapiens arrivés en Europe. Ce lion, c'est une sorte de miroir pour les hommes qui vivaient il y a 30 000 ans, soulignait jeudi le performeur lors de l'installation de l'homme-lion. C'est la première œuvre que je fais qui s'attache à une œuvre existante, avait-il expliqué en préparant son voyage en capsule, comme il aime appeler ses performances de claustration. Car depuis plusieurs années, Abraham Poincheval multiplie les expériences d'enfermement. Il a déjà passé 8 jours dans un trou sous une pierre d'une tonne en 2017 et 2 semaines à l'intérieur d'un ours naturalisé en 2015. Il a aussi vécu une semaine enfermé dans le vide sur une plateforme de 20 mètres au-dessus du sol devant la gare de Lyon en 2016 à Paris, où il a également habité à bord d'une bouteille géante de 6 mètres de long en remontant le Rhône en 2015. Des expériences iconoclastes, reconnaît le performeur. Il y a un moment de rupture dans mes œuvres, quelque chose d'iconoclaste en lien avec les ermites. Cassons les repères de notre société, ne nous contentons pas des images qui nous sont données par le monde. Emmurés, empierrés ou enfermés dans un sarcophage d'homme-lion, plongés dans le noir et ne pouvant pratiquement pas bouger, Poincheval affirme ne pas souffrir des privations sensorielles. Vous sentez au bout d'un moment que vous êtes dans un autre espace, l'esprit se balade. On a choisi un endroit assez beau et derrière le bois, il y a des abris sous roche de la période orignacienne. Cette statue, c'est comme une sorte de totem, de veilleur, s'enthousiasme Poincheval, le rêveur. Il va passer 7 jours et 6 nuits en lisière de forêt dans le bruissement d'un ruisseau pour une sortie prévue le matin du 8 juin. Cette performance et l'édification de l'homme-lion pour ce petit musée entre Toulouse et les Pyrénées s'inscrit dans une commande publique du ministère de la Culture. Quand on a vu passer l'appel d'offres du musée d'Aurignac, on s'est dit « ça, c'est pour Abraham », raconte Lily de l'agence Pièces Montées qui a proposé en 2016 à l'artiste de répondre à l'appel d'offres. Pour la suite, Abraham Poincheval a encore des projets plein la tête, rassurez-vous, tous plus fous les uns que les autres. Il compte rallier Londres en armure, ce sera une sorte de chevalier errant, dit-il avec un demi-sourire. Et pour 2019, il envisage la construction d'un radeau suspendu à un ballon pour marcher sur les nuages. Allez, si je devais regrouper mes articles par thématique, celui-ci se classerait dans celle des petits conseils pratiques que je pensais évidents mais qui ne le sont pas visiblement. Cela ne viendrait pas forcément à l'idée de chacun, mais deux précautions valent mieux qu'une et le gouvernement américain a cru bon de le rappeler. Faire griller de la guimauve sur de la lave volcanique n'est pas une bonne idée. Faire cuire des marshmallows, des guimauves sur de grands feux de camp fait partie des activités estivales préférées des Américains. Et un internaute a demandé, à moitié sérieusement, à l'Agence des services fédéraux géologiques sur Twitter « Est-ce qu'on peut en toute sécurité faire griller de la guimauve sur des fentes volcaniques ? Si on a un bâton suffisamment long, bien sûr, ou est-ce que le résultat serait empoisonné ?» Nous allons devoir répondre que non, on ne peut pas le faire. Si les fentes diffusent du dioxyde ou du sulfure d'hydrogène, les guimauves auraient mauvais goût. Et si on ajoute de l'acide sulfurique au sucre, le résultat est assez spectaculaire. Le volcan Kilauea de l'île d'Hawaï est en éruption depuis début mai et déverse lentement de la lave sur l'île et dans l'océan Pacifique, bloquant les routes et forçant l'évacuation d'environ 2000 personnes. Selon Janet Snyder, porte-parole du comté de Hawaï, déjà 71 maisons ont été détruites malheureusement. L'éruption dégage aussi des panaches de fumée et des vapeurs toxiques et irritantes. Ces émanations potentiellement dangereuses ont atteint les îles Marshall et le territoire américain de Guam, ont averti les autorités. Que ce soit donc pour prendre des photos, pour vous promener sur la route ou avec vos guimauves, eh bien méfiez-vous de la lave pour la chaleur, pour les réactions chimiques, pour toutes ces raisons, méfiez-vous.
de leur album The Suburbs. C'était la pièce The Suburbs, Arcade Fire, sur Canal M.
Et on continue avec du feu, parce que j'ai une petite brève sur les volcans. Nous parlions de volcans juste avant. Qu'arriverait-il si tous les volcans du monde entraient en éruption en même temps? Vous vous êtes sûrement déjà posé la question, j'en suis sûr. Eh bien, j'y réponds ce matin. La Terre telle que nous la connaissons serait bien différente. Il faut savoir que chaque jour, entre 10 et 20 volcans entrent en éruption quelque part sur la planète. Par contre, s'ils devaient tous exploser au même moment, ce qui est pratiquement impossible selon les scientifiques, rassurez-vous, restez assis à la maison, eh bien ce serait l'apocalypse. Les changements climatiques provoqués par les cendres et les gaz des volcans seraient insupportables pour les humains et toutes les autres formes de vie. Des nuages de cendres bloqueraient les rayons du soleil et nous serions plongés dans l'obscurité et le froid pendant au moins 10 ans. De plus, des pluies acides causées par les gaz détruiraient les dernières plantes tenaces. Seules quelques bactéries survivraient à un tel hiver. Vous l'aurez donc compris, gardez vos guimauves, ne créez pas des réactions en chaîne. On a envie tous de rester sur notre petite planète Terre. Une autre petite brève concernant les chiens, on en voit plein dans les parcs en ce moment. Une année dans la vie d'un chien représente-t-elle vraiment 7 ans pour nous? Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact. Il est vrai que l'espérance de vie du chien est de 10 à 13 ans. Chez l'humain, l'espérance de vie est en moyenne de 79 ans, soit environ 7 fois celle du chien, effectivement. Or, le processus de vieillissement chez ce dernier varie grandement entre le début et la fin de sa vie. Les canidés ont en effet un rythme de vieillissement 20 fois plus rapide que celui des humains durant leur première année de vie. Mais vers la fin de leur vie, ce rythme ralentit. C'est donc à moitié vrai. Allez, un petit peu d'espoir avec une dernière petite brève. On parlait de plastique tout à l'heure. Quel pays a banni les couverts en plastique en premier au monde? Eh bien, cela nous vient de France. C'est le premier pays au monde à bannir les couverts en plastique. D'ici 2020, l'Hexagone ne permettra plus la vente d'assiettes, de gobelets, d'ustensiles en plastique. Un petit pas pour l'homme. Prenons une courte pause si vous le voulez bien, mais ne bougez pas, nous revenons juste après ça, dans quelques minutes, pour encore plus de sujets intéressants et détonnants. A tout de suite, ne bougez pas.
Et on vient d'entendre la pièce Supernova, Stéphane Morail.
Deuxième partie de cette émission, et je vous propose de la débuter avec deux sujets un peu plus sérieux qu'à l'accoutumée. Ils sont tirés du Monde et d'une section du Monde que j'affectionne particulièrement. Il s'agit d'un blog que le Monde tient qui s'appelle Big Brother. Si vous êtes curieux, si vous aimez les traitements un peu plus insolites de l'actualité, je vous le conseille. Car en général, le Monde va fouiller et va traiter ces sujets-là de manière assez différente des autres médias et nous invite souvent à la réflexion. Pour ce premier de ces deux sujets sérieux, je vous propose celui qui s'intitule « Un sans-papier de 25 ans menacé d'expulsion questionne la hiérarchie des actes de bravoure ». Ça se passe en France. Le 10 avril 2015, à Fos, dans le Val-d'Oise, Aymen Latrousse, tunisien arrivé en France en 2013, a sauvé deux enfants enfermés dans la chambre d'un appartement en proie aux flammes. Parfois, souvent même, l'actualité semble bégayer. Il y a comme de l'écho, mais la petite musique est un peu différente. Et le décalage souligne plus âprement encore le cynisme d'une société. D'un côté, il y a la lumière, la machine médiatique qui s'emballe à l'idée d'avoir trouvé un héros. Parce que c'était un jour de morne actualité, parce que des témoins étaient là pour filmer, Mamoudou Gassama, en sauvant spectaculairement un enfant de 4 ans suspendu dans le vide, s'est fait remarquer jusqu'au plus haut sommet de l'État. Reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée lundi 28 mai, la semaine passée, le migrant malien de 22 ans va accéder à la naturalisation française et intégrer le service civique des sapeurs-pompiers de Paris. De l'autre, il y a celui resté dans l'ombre. L'histoire d'Aymen Latrousse, sans papier de 25 ans, arrivé en France en 2013, raconté dimanche 3 juin par Le Parisien. Le 10 avril 2015, à Fos, dans le Val-d'Oise, ce Tunisien a sauvé, en compagnie de deux amis, deux enfants enfermés dans la chambre d'un appartement en proie aux flammes. C'est la mère des deux garçons, âgés de 19 mois seulement et 5 ans, qui avait appelé à l'aide. « Nous sommes montés tout de suite pour chercher les enfants. Nous les avons trouvés tout de suite dans la chambre. Ils étaient restés ensemble », témoigne Aymen Latrousse dans Le Parisien. Les trois sauveurs repartent aussitôt et ne refont surface qu'après un appel à témoins lancé par la mère pour les retrouver et les remercier. 3 semaines après leur acte, le maire de Fos leur remet une médaille de la ville pour acte de bravoure. Mais 2 ans plus tard, le jeune homme, diplômé d'informatique, est sous le coup d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Une décision prise et confirmée par le préfet du Val-d'Oise, malgré la demande du maire de Fos d'obtenir une dérogation auprès de services de l'État, rappelant le geste héroïque d'Aymen Latrousse. Comment ne pas établir de lien entre ces deux destins? Ne pas voir l'ironie d'une société qui choisit une poignée de héros pour mieux rejeter la masse des autres? L'avocate de M. Latrousse, Philippine Parastatis, demande l'annulation de la décision du préfet. « Je lance un appel au président de la République afin d'être reçu et pour qu'il m'explique comment hiérarchiser les actes de bravoure », ajoute-t-elle dans les colonnes du Parisien. Faut-il considérer que sauver un bébé en escaladant un immeuble est plus héroïque que braver les flammes pour sauver deux enfants? Quelle malchance de ne pas avoir été filmé. Jointe par l'agence France Presse, la préfecture du Val-d'Oise a assuré lundi qu'elle envisageait de revenir sur sa décision, sitôt qu'elle aurait réuni le maximum d'éléments corroborant cet acte de bravoure, notamment auprès des pompiers valdoisiens. Sur France Info, le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, a dit son souhait qu'Aymen Latrousse ne soit pas expulsé, appelant à tenir compte de la réalité de la situation. Rejoignant la critique d'associations d'aide aux migrants, Madame Parastatis, Maître Parastatis, regrette qu'il faille que ce soit médiatisé pour qu'il y ait une solution. Autre sujet sérieux, autre sujet tiré du Monde, nous nous dirigeons cette fois-ci en Arabie Saoudite. Une princesse saoudienne posant au volant d'une voiture en une de Vogue crée la polémique. Les militants des droits de la femme ont fait part de leur colère, au moins 11 des leurs ayant été arrêtés en mai, en majorité des femmes ayant lutté contre l'interdiction de conduire. La dernière couverture du magazine Vogue montrant une princesse saoudienne posant au volant d'une décapotable rouge n'est pas passée inaperçue, c'est le moins qu'on puisse dire. on y voit la fille de l'ancien roi Abdallah portant gants en cuir et talons aiguilles et vêtue d'une longue tenue blanche et d'un voile laissant apparaître une partie de sa chevelure. Avec cette une de son numéro de juin, Vogue Arabia voulait célébrer les femmes avant-gardistes en Arabie Saoudite et louer les réformes sociétales engagées par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Riyad s'est notamment engagé en septembre 2017 à autoriser les femmes à conduire, fixant ensuite au 24 juin la levée de l'interdiction. Dans notre pays, certains conservateurs ont peur du changement. Personnellement, je soutiens ces changements avec beaucoup d'enthousiasme, a affirmé la princesse Haifa bint Abdallah Al Saoud au magazine. La photo a déclenché la polémique dans le royaume conservateur. Les militants des droits des femmes, ont fait part de leur colère. Au moins 11 des leurs ayant été arrêtés en mai, en majorité des femmes connues pour avoir lutté contre l'interdiction de conduire et le système de tutelle masculine, de manière plus générale, en Arabie Saoudite. Au moins 4 d'entre eux ont été libérés la semaine dernière, mais le sort des autres reste incertain, selon Amnesty International. Des médias pro-gouvernementaux saoudiens les ont qualifiés de traîtres, tandis que sur les réseaux sociaux, la photo de la couverture a été largement reprise en remplaçant le visage de la princesse par celui des militantes détenues. Après que Vogue Arabia a pensé qu'il faisait sens de présenter la princesse sur son numéro de juin 2018 consacré aux femmes avant-gardistes d'Arabie Saoudite, les Saoudiennes se sont servies de Twitter pour s'y opposer et ont remplacé la photo par celle de 3 des militantes arrêtées et qualifiées de traîtresses, a tweeté la militante saoudo-américaine Nora Abdulakrim. Selon des analystes, la récente campagne de répression contre les militants des droits de la femme reflète les limites des réformes engagées par le prince héritier, qui a récemment fait une tournée internationale visant à redorer l'image du royaume ultra-conservateur. Il y a donc visiblement encore un petit peu de chemin à parcourir.
T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là. Oh,
Clara Luciani et la chanson La Grenade sur Canal M.
Et Clara Luciani qui sera de passage pour les Francofolies, si je ne m'abuse, je crois avoir vu passer ça sur les réseaux sociaux et j'attends ça avec impatience personnellement. Parfois, c'est moi qui peux faire des transitions, Jean-Sébastien. Et oui, nous allons parler, on a parlé de grenades là dans la chanson. Heureusement, rassurez-vous, je vous parle d'une arme à feu, mais tout le monde va bien. Je préfère le dire en partant. Qui dit arme à feu et bêtise dit forcément États-Unis. On ne va pas se mentir. Ça se passe donc aux États-Unis. Et c'est une personne inattendue qui a provoqué cette petite insolite. On pourrait croire que les agents du FBI sont des personnes sérieuses. Eh bien, pas toujours. Un agent du FBI particulièrement en forme, et ça c'est un commentaire personnel ajouté peut-être éméché, je pense, a tiré accidentellement sur un homme en effectuant un saut périlleux arrière dans un bar de Denver au Colorado. On rapportait dimanche les médias locaux et surtout les réseaux sociaux. La scène, entièrement filmée et devenue virale sur les réseaux sociaux, montre l'agent en train de se déhancher, jusque-là tout va bien, avec enthousiasme, au milieu d'une piste de danse d'un bar, sous le regard de dizaines de clients de l'établissement. Ils sont tous en rond autour de lui à le regarder. C'est en exécutant un saut périlleux arrière, un salto arrière, que les choses se sont gâtées, son arme tombant malencontreusement de son pantalon. Jusque-là, tout va encore à peu près bien. Mais c'est en voulant récupérer l'arme qu'il a maladroitement, le terme est faible, actionné la gâchette et qu'un coup est parti. Un homme a été blessé à la jambe et aussitôt hospitalisé. Ses jours ne sont pas du tout en danger, rassurez-vous. L'agent, pour sa part, eh bien, est allé se déhancher en cellule. Il a été emmené au quartier général de la police, puis remis à un superviseur du FBI pour être auditionné et faire la lumière sur cette affaire. Je ne les comprends pas, j'ai beaucoup de mal. Je suis ici à Montréal depuis longtemps, mais je pense qu'au-delà de la frontière, c'est trop loin pour moi. Se déhancher dans un bar avec une arme à feu, faire un salto arrière... Non, on est bien à Montréal, on va rester à Montréal. Et allez, deux en deux, une double transition, je suis en feu ce matin. Parlons de prison, et ça se passe en France, une prison où finira peut-être l'agent du FBI, en tout cas un bon coup de règle sur les doigts, ça serait mérité. Une femme incarcérée, une femme tente de s'évader de prison, bon ça peut arriver de temps en temps, en se faisant passer pour sa jumelle, ça c'est plus insolite. Une femme incarcérée à la prison de Sequedin dans le nord de la France a essayé de s'évader. En se substituant à sa sœur jumelle, une tentative déjouée in extremis grâce au contrôle de leurs empreintes, a-t-on appris vendredi auprès de l'administration pénitentiaire. Le 26 mai, au parloir des femmes, les surveillants remarquent qu'une femme de 19 ans est habillée pratiquement comme sa sœur, placée en détention pour vol. Dans le petit local fermé du parloir, qui dispose d'un hublot, des surveillants les surprennent en train de finir d'échanger leurs t-shirts et leurs montres, ne sachant plus qui était qui. A expliqué un porte-parole. L'utilisation de la biométrie ne permettant pas non plus de les identifier, les surveillants ont fini par vérifier leurs empreintes digitales pour distinguer la détenue de sa visiteuse. Une tentative par substitution, constituant une tentative d'évasion à part entière, les deux jeunes femmes ont été placées en garde à vue pour évasion, selon la même source. Il y a une attention particulière quand il y a des jumeaux au parloir, car on sait que c'est une technique qui peut être utilisée, a souligné la responsable, précisant toutefois que ce type de tentative d'évasion était rare. Voilà les deux derrière les barreaux. Il suffit d'espérer qu'elles ont une sœur jumelle à nouveau, qu'elles se soient des triplés, des quadruplés, peut-être. Encore d'autres tentatives d'évasion.
Il est en prison maintenant. Je lui ai dit tant de fois d'arrêter ses cartes et ses jetés.
Il est en prison maintenant.
Hey, Normand.
Ouais.
T'as connu, toi, Trèfle Foron?
L'avocat?
Sais-tu quoi?
Non.
Oui, il faut parfois aller chercher loin pour trouver des thèmes musicaux, mais ça fonctionne effectivement. Restons en France, à Paris, où des individus se font remarquer en ce moment, alors pas par leur tentative d'évasion heureusement, mais par leur taille. Les plus grands hommes du monde en balade à Paris, tous en même temps. L'un mesure 2m46, l'autre chose du 68. Un record mondial. Une petite dizaine d'hommes parmi les plus grands du monde se retrouvent à Paris pour un week-end d'échange entre eux, mais aussi avec les passants qui se sentent soudain très 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 petits. Dans la foule qui déambule sur les Champs-Élysées en ce vendredi soir, ils ne passent pas inaperçus, tapotant la tête d'enfants éberlués et enchaînant les égoportraits avec les curieux. Moi qui mesure 1m58, jamais on ne peut imaginer un truc pareil, on vient de la campagne en plus, rigole un touriste français du sud-ouest du pays. Pour le basketteur Dalibor Misic, 2m24, le plus grand homme de Serbie, c'est sympa d'être parmi d'autres grands hommes. Toute votre vie, vous êtes le plus grand de la ville, et ici, enfin, vous rencontrez des gens plus grands que vous, c'est juste incroyable, sourit-il. Chaussé d'immenses sandales, le Vénézuélien Jason Orlando Rodriguez, 2m32, est quant à lui détenteur du record des pieds les plus longs. Actuellement, il chausse une pointure 68, soit du 28 en taille américaine. Et il continue de grandir, c'est incroyable, c'est terrible, remarque George Wessels, un cordonnier allemand. Quand on se rencontre comme ça avec les plus grands du monde, c'est un autre sentiment. C'est un regard horizontal parce que d'habitude on a un regard vertical vers les autres, qui sont plus petits que nous. Mais quand on est ensemble, on se sent toujours comme des frères, on a de la force, souligne le français Brahim Takuyula, 2m46 et deuxième plus grand homme du monde.
Ton âme n'est qu'un cœur froid et fixé. Le vertige de perdre encore une heure, de m'oublier pour toi, de m'étourdir le cœur. Et te voir t'en aller encore une fois, et devoir supplier. Me too.
On vient d'entendre l'auteur-compositeur-interprète Laurence Castera et de son album Le bruit des mots, c'était la pièce Le vertige.
Une petite insolite qui nous vient des États-Unis, qui concerne la police, alors pas les armes à feu pour une fois, heureusement. Elle s'invente un bébé pour que la police retrouve son auto volé. Une femme du nord du Texas s'étant fait voler sa voiture a menti à la police en prétendant que son bébé de 10 mois était dans le véhicule afin que les forces de l'ordre le retrouvent plus rapidement. Selon la police de Grand Prairie, une alerte Amber a été diffusée après que Margarita Levry eut communiqué avec les autorités pour signaler le vol. Les policiers ont plus tard établi que son automobile avait bel et bien été volé, mais qu'aucun enfant ne se trouvait à l'intérieur. Le corps policier a précisé que Madame Levry n'avait pas de bébé âgé de 10 mois. La femme a été incarcérée et accusée d'avoir fait une fausse déclaration aux autorités et l'alerte Amber a été annulée. La police croit que Margarita Levry a inventé l'histoire dans l'espoir que les agents retracent plus vite son véhicule, lequel n'a d'ailleurs pas été retrouvé, pas plus que son bébé qu'elle n'a pas. Une petite insolite qui nous vient de Nouvelle-Zélande, qui, je préviens, se passe sous la ceinture. Un tribunal ordonne qu'on mesure le pénis d'un prévenu. Un tribunal néo-zélandais a ordonné que soit mesuré le pénis d'un prévenu poursuivi pour agression sexuelle après que son accusatrice eut donné des indications sur sa taille. David Scott, un élu de Kapiti au nord-est de Wellington, plaidait non coupable d'avoir s'être frotté contre une femme employée sur le conseil du district de l'année dernière. La victime présumée a déclaré que l'objet qui avait touché son dos mesurait entre 10 et 12 cm, rapportent les informations. Le juge a donc demandé au médecin du prévenu, âgé de 72 ans, de mesurer le pénis avec une règle en bois dans la cellule du tribunal. Le magistrat a cependant refusé de rendre public les résultats de l'examen. La défense a fait valoir que c'est le portefeuille de l'élu qui a touché la plaignante au moment où elle passait près d'elle. Voilà quand la justice se rend sous le pantalon. Petite question philosophique, petite question existentielle. Combien existe-t-il de civilisations extraterrestres ? Selon deux chercheurs de l'université Laval, c'est au Québec, Oura, le professeur de physique Hermano Bora et son étudiant Éric Trottier, il existerait pas moins de 234 civilisations extraterrestres. Ces derniers auraient analysé 2,5 millions d'étoiles, rien de moins, et auraient constaté que 234 d'entre elles émettent des signaux impossibles à expliquer par les phénomènes naturels, nous ne sommes pas seuls. Et une dernière petite question existentielle. Est-il vrai que les journées sont plus longues sur la Lune ? La Terre met 24 heures à accomplir une telle rotation. La Lune met plus de temps car elle tourne moins vite. Si vous étiez sur la Lune, et non dans la Lune, votre journée durerait environ 27 jours plutôt que 24 heures. Mentionnons au passage qu'une journée dure 58 jours sur Mercure, 243 sur Vénus, 24 heures sur Mars et 10 heures sur Jupiter, 10 heures sur Saturne également, 17 heures sur Uranus et 6 jours sur Neptune. Vous savez tout. Si vous voulez dormir plus longtemps, eh bien vous pouvez changer de planète, avoir des nuits plus longues, c'est comme vous voulez. C'est la fin de cette émission, le temps de remercier Jean-Sébastien Laliberté pour la mise en onde des choix musicaux. C'était Louis de Bernis, nous nous retrouvons la semaine prochaine, même jour, même heure, mardi 9h. Je serai là, le serez-vous aussi, j'espère. Bonne semaine à tous.